Bonjour, bonjour.
Ça fait toujours rire ces petites musiques choisies par Céline et Gilles. Vous êtes Monsieur Lafitte ?
Je suis bien Monsieur Lafitte. Vous êtes Monsieur Joss ?
Oui, je suis Monsieur Joss. Et alors, avec mon invité que je vais vous présenter, mais que vous connaissez bien, Raphaël Pidoux.
Oui, je l'aime beaucoup.
Vous l'aimez beaucoup. Vous allez nous présenter qui aujourd'hui ?
Un jeune pianiste, Pierre Chalmot. Il sort son premier disque consacré à Louis Couperin. Il a enregistré en fait 3 suites de danse qui sont dans ce disque conçu en cycle d'après les pièces de clavecin de Couperin. Il vient nous en parler ce matin et surtout, il en joue quelques extraits en direct. Voici des extraits de la suite du Tombeau, Prélude et de Sarabande, Louis Couperin par Pierre Chalmot.
Thank you.
En direct sur France Musique, Pierre Chalmot avec cette suite du tombeau Prélude et deux sarabandes de Louis Couperin. Bonjour Pierre Chalmot.
Bonjour à vous, merci.
Vous allez bien ?
Très bien, comme,
comme un pianiste
un
à 8h27.
Voilà, mais on va s'y faire.
Et qui est en direct sur France Musique pour la sortie de son premier disque. C'est pas mal quand même.
Oui, c'est plutôt agréable. Et alors, d'ailleurs, je tenais par commencer à vous remercier de m'inviter. Ça me fait extrêmement plaisir. Et c'est évidemment pour la visibilité de ce disque très important. Et que vous invitiez des musiciens et particulièrement des jeunes musiciens. voilà.
Pour ce disque, Louis Couperin, donc, qui a beaucoup composé pour le clavecin, qui a beaucoup composé aussi pour l'orgue, mais finalement, on l'entend peu au piano.
Tout à fait. Alors, même pour être franc, on l'entend quasiment jamais. On ne le connaît même quasiment pas, en fait, nous autres pianistes. En fait, d'ailleurs, on a encore pas mal à découvrir et on a encore pas mal à voler aux claveciniste dans la période du XVIIe siècle. On l'a déjà beaucoup fait, mais il y a encore du travail. Alors oui, c'est donc l'oncle de François Couperin. Il est, comme je le disais, presque inconnu dans le monde du piano, mais c'est en revanche un compositeur extrêmement reconnu dans le monde baroque, et pour les clavecinistes, c'est un compositeur primordial. À l'entrée au conservatoire de Lyon, il est pas rare qu'on demande un prélude non mesuré de Louis Couperin, qui fait donc partie des bases du clavecin. Alors le prélude non mesuré, c'est donc un genre assez particulier, qui est un genre de claveciniste, qui est d'ailleurs à la base était à l'origine un genre de luthiste, mais que les clavecinistes ont développé au XVIIe siècle. J'en ai joué un pour démarrer, qui est donc la première pièce de mon disque. Et le prélude non mesuré a cette particularité que le rythme, la vitesse des notes n'est pas écrite par le compositeur. C'est à l'interprète de rythmer les choses à sa manière.
Ce qui vous rend extrêmement libre d'ailleurs. Et quand on entend le début de ce disque, l'ouverture de ce disque, on se dit non mais d'un seul coup on est face à un compositeur baroque et ça sonne extrêmement romantique. C'est ça qui vous a attiré finalement dans cette musique ?
Alors, je dois dire, première chose qui m'a attiré, c'est visuellement les préludes non mesurés, parce que ça fait des partitions quand même extrêmement étonnantes, avec des rondes écrites partout, et on voit bien que ça ne ressemble absolument pas à ce qu'on connaît, donc évidemment ça pique la curiosité. En m'y attelant, en déchiffrant tout ça, c'est surtout d'abord les chaconnes et les passacailles, qui sont des pièces d'une profondeur absolument inouïe, d'une grande mélancolie, plutôt, on va dire, une musique assez triste et qui ont en effet une résonance romantique forte. Après, que ça sonne romantique est aussi lié au piano, il faut le dire. C'est-à-dire que le prélude non mesuré que je vous ai joué tout à l'heure, parfois on m'a même dit que ça sonnait pas loin du jazz. Mais bon, alors d'abord, c'est une écriture qui est censée imiter l'improvisation. Donc ça sort un peu du cadre du piano classique tel qu'on l'entend, qui est très rarement improvisé. Et surtout, voilà, je crois vraiment que l'instrument du piano non pas romantise la musique de Louis Couperin, mais ouvre les oreilles à tout ce qu'on peut y entendre, justement. Et notamment des ombres romantiques assez fréquentes.
C'est pas une mauvaise idée, Raphaël Pidoux, que de sortir un disque Couperin quand on est pianiste, puisque ça ne se fait pas si souvent, disait à l'instant Pierre Chalmot.
Moi j'applaudis dès demain, je suis très ouvert. Faut pas être dogmatique dans la musique. Et puis je relisais Arnon Cour hier qui disait que avec Wiener Philharmoniker, quand il fait une passion de Bach, il fait une passion de Bach sur les cordes en métal et les instruments modernes, quoi. Donc je veux dire, ce qui compte c'est le style, le goût, et ce que nous dit
Pierre,
c'est exactement ça, je crois. C'est puis il est heureux. Moi ce que je trouve terrible, quand heureusement que j'ai pas continué à être pianiste, parce que il y a un tel répertoire au piano, on n'a pas assez d'une vie, je pense, pour tout jouer.
Tout à fait.
Alors je serais malheureux de pas pouvoir tout jouer.
Du coup, il faut avoir des partis pris forts comme celui de Pierre avec ce disque.
Exactement, bravo.
Ouais, bravo pour un premier disque en plus.
Merci beaucoup. Oui, On a...
Allez-y, dites encore un mot, puis vous irez jouer après.
Oui, je voulais dire que cette problématique de l'instrument, en tant que violoncelliste, j'imagine que vous la côtoyez. Je sais que au violon et au violoncelle, vous y faites face d'une manière assez omniprésente, c'est-à-dire jouer de quelle manière, plutôt baroque, plutôt romantique, tout ça. Et pour moi, la question ne s'est pas vraiment posée en ces termes, puisque de toute façon, je ne suis que pianiste, mais le rôle du clavecin, peut-être on en reparlera tout à l'heure, a été très important pour moi, et le rôle de la sonorité du clavecin, qui est intrinsèquement lié à cette musique.
On va vous écouter en direct sur France Musique. Allez regagner le piano du Studio 107. Voici maintenant l'extrait de la suite d'Elia Sarabande. Et Vol, je vous rappelle, je dis suite parce qu'il a enregistré donc Pierre Chalmot 3 suites de danse qui sont dans ce disque conçues en cycle d'après ces pièces donc de Louis Couperin. Pierre Chalmot en direct.
Thank you.
Pierre Chalmot en direct sur France Musique pour son disque qui vient de paraître consacré à Louis Couperin, c'est chez Fondamenta.
France Musique.
C'est toujours émouvant de recevoir un pianiste encore assez jeune, pas débutant mais jeune, et qui sort un premier disque, qui fait l'une de ses premières interviews sur France Musique, parce qu'on est fiers de ça. Et je pense que Raphaël Pidoux, qui est enseignant aussi, doit être ému parfois par des débuts.
Comment vous le savez?
Parce que je le vois à votre manière d'écouter Pierre.
Exactement, mais là c'est vraiment bravo, parce que c'est pas facile sur cet instrument qui est le piano de pouvoir pénétrer un style comme celui-là, et je dois dire que ça me convient. Ça me convainc beau, très très bien, et ouais, c'est comment dire. Mais j'ai l'impression que j'avais plus le trac, moi, quand j'avais son âge.
Oui. Alors, j'ai le trac.
Parce que personne ne veut la faire, votre émission le matin, à jouer à 8h30.
Oui, c'est difficile, c'est ce qu'on demande. Oui.
Ouais, c'est terrible.
On a des chanteurs aussi qui viennent.
C'est vrai. Pierre Chalmot, justement, Raphaël Pidoux en parlait. Comment on fait pour pénétrer cette musique? C'est le terme que vous avez employé, Raphaël.
C'est vrai, j'assume.
Au piano, c'est-à-dire que c'est une musique écrite pour le clavecin. Le clavecin et le piano ne sont pas du tout les deux mêmes instruments. Instrument à clavier, d'accord. Enfin, ce n'est pas du tout le même son, pas du tout la même technique. Alors, comment vous vous y prenez, vous, face à ces partitions et face à votre clavier qui est le piano?
Alors, c'est donc une question de fond sur ce projet, puisque, comme je le disais tout à l'heure, la musique de Louis Couperin n'a jamais été vraiment dissociée de son instrument d'origine, qu'est le clavecin. Et c'est un petit peu ce qui n'est pas, enfin, pour faire une comparaison brutale, c'est ce qui n'est pas le cas de Bach, qu'on connaît parfois presque plus au piano aujourd'hui qu'au clavecin. Ce qui n'est évidemment historiquement pas tout à fait correct.
Oui.
Dans le cas de Louis Couperin, comment on s'y prend? Alors, c'est une démarche assez ouverte, assez intuitive en ce qui me concerne, qui se rapproche du geste de la transcription. C'est-à-dire que c'est pas simplement de prendre la partition et de l'interpréter telle qu'elle est écrite au piano, mais c'est aussi de s'inspirer de la sonorité qu'on entend au clavecin, qu'on entend chez les clavecinistes. Alors c'est s'inspirer de la sonorité, s'inspirer de l'ornementation, des agréments. Voilà, il y a tout un travail d'appréhension et je dirais de digestion de ce qu'apporte le clavecin par sa sonorité et son style.
Vous n'auriez pas un portable dans la poche? Parce qu'on entend un petit grésillement, petit larcène qui est peut-être désagréable dans l'oreille de l'auditeur.
C'est très intéressant,
Raphaël,
ce qui, pardon.
Je vous en prie, enchaînez.
Je dis souvent, nous c'est pareil, avec si on joue du Bach avec l'instrument moderne et l'archet moderne, c'est pas grave, mais il faut changer de coup d'archet. On peut pas jouer avec les coups d'archet qu'on utilise quand on joue l'instrument baroque avec les cornes en boyau et l'archet baroque. Donc c'est là où la polyvalence est très importante. Et je pense qu'il faut pouvoir tout faire avec les moyens du bord. D'ailleurs, à l'époque, on faisait avec les moyens du bord. S'il y avait un clavecin qui marchait pas, ben on essayait de se surpasser pour qu'il marche quand même. Un jour, Jean-Claude Pentier faisait un récital au Maroc et il y avait deux touches qui faisaient la même note. Parce que là, il y avait un marteau de cassé et l'accordeur avait relié les deux marteaux. Mais voilà, donc il a essayé de faire ce qu'il pouvait. Enfin, voilà.
En chantant la note.
l'instrument, finalement, il faut dépasser ce stade-là.
Ça, il faut de l'expérience pour pouvoir accepter, assumer ça.
Oui, mais en même temps, l'instrumentarium correspondant, c'est tellement utile pour progresser dans sa réflexion, mais ça doit pas être une fin en soi. D'ailleurs, quand on arrive dans une grande salle, quelquefois, et qu'on est obligé de nous mettre des micros parce qu'on n'entend rien, la viole de gamme, c'est pas fait pour la grande salle du concert de Gebo d'Amsterdam, par exemple. Mais c'est pas grave. Je pense que il faut faire attention à ça. C'est vrai qu'en même temps, il faut être très strict sur le goût. On peut pas faire n'importe quoi avec n'importe quel compositeur, mais on va dire que l'instrument c'est moins grave.
Vous avez bien fait de venir, Pierre Chalmot, ce matin. Elle est belle, cette rencontre avec Raphaël Pidoux. On va vous écouter jouer à nouveau en direct. Voici un extrait de la suite d'Elias, Chacon ou Passacaille en sol mineur. Pierre Chalmot. De la suite d'Elias de Louis Couperin. Voilà, une nouvelle manière d'entendre, d'écouter la musique de Louis Couperin par Pierre Chalmot au piano. Vous avez un point commun tous les deux, c'est que vous avez des pères musiciens. Roland Pidoux, ben voilà.
violoncelliste Roland Pidoux.
Votre père est violoncelliste, ou votre Pierre.
Mon père est pianiste.
Oui. Fils de pianiste.
Mon père est pianiste
et chef d'orchestre.
Tout à fait, il dirige l'orchestre des Pays d'Aix.
C'est par admiration des papas que l'instrument est venu entre vos mains.
C'est dans le Pierre. Lien avec mon père que mon rapport au piano s'est construit, c'est sûr. Et dans l'admiration de mon père, et puis dans l'admiration des pianistes par la suite.
Et vous, Raphaël?
Évidemment, comment vous avez deviné?
Vous auriez pu vous révolter, les garçons, hein.
Oui, c'est vrai, mais toujours pas. Même pas mal.
Il n'y a pas eu besoin.
Non, mais moi, je retrouvais mon père toutes les semaines, effectivement, pour le cours hebdomadaire. Et puis, quand je me suis présenté la première fois au Conservatoire de Paris, il ne voulait même pas que je dise que j'avais si peu d'années derrière moi de bagages. Donc, c'est des beaux moments, oui.
Mais il vous a transmis tellement de choses, votre père, Raphaël Pidoux, parce que, en plus de l'instrument, il vous a transmis cette vocation d'enseigner l'instrument. Vous êtes prof?
Ouais, là où il l'était, puisqu'il est parti en retraite et j'ai été nommé 2 ans après.
Au conservatoire. Donc,
heureusement, c'est pas la même classe. Moi, j'ai pris la succession de Philippe Muller. Mais c'est vrai que ça fait tout drôle. Et encore au conservatoire, d'ailleurs, l'administration, vous savez, ils sont très nombreux au conservatoire. Ils confondent encore le père et le fils. Voilà. mais ça me va.
Parce que vous enseignez au conservatoire, mais vous faites aussi des masterclass. Est-ce que c'est très différent?
Très. La masterclass, c'est du show. C'est, alors, il faut pas en fumer non plus l'élève, mais je veux dire par là qu'il y a un public et puis c'est un spectacle. Donc, et puis ça dure une fois. On a l'élève devant nous et puis après, de temps en temps, d'ailleurs on les revoit plus, donc on essaye de leur dire un maximum de choses, mais il faut aussi plaire au public. C'est normal, quand on est sur scène, il faut un petit peu plaire au public, un petit peu, je dirais.
Du coup, vous croyez que vous réussissez à enseigner quelque chose lors d'un masterclass ?
Oui, quand même, quand même. On essaye d'aller à l'essentiel, etc. Mais je dois dire que c'est pas le même boulot que d'être devant un élève d'une manière hebdomadaire et d'essayer comment dirais-je, de vraiment de lui apporter le bonheur, les progrès nécessaires, etc. Et ça, je dois dire que c'est le plus difficile à faire. Comme métier, voilà.
Restez avec nous, monsieur le professeur et membre émérite du trio Vandérer. Restez avec nous, le jeune pianiste Pierre Chalmeau. J'ai un adjectif pour tout le monde aujourd'hui, Nicolas.
Oui.
On va retrouver le trépidant Hervé Niquet.